Vous vous souvenez, il y a 15 jours, je vous ai fait part d'un scoop. Je vous ai dit que notre Bible était séparée en deux grandes parties, un Ancien et un Nouveau Testament. Alors c'est un fait qui a été quand même suffisamment important pour que ça perdure jusqu'à nous. Et je pense que nos pères ont discerné quelque chose de très important dont j'ai commencé à vous parler il y a 15 jours. Deux testaments, deux morts, deux héritages. Donc je vais revenir sur ce que j'ai dit il y a une quinzaine de jours, pour ceux qui n'étaient pas là. Le sang met de côté les péchés, mais il faut la croix pour mettre de côté le pécheur. Un fait important, parce qu'on a souvent tendance à inverser les choses, c'est que le pécheur est un pécheur parce qu'il est né pécheur et non parce qu'il a commis des péchés. Je ne puis pas, en améliorant ma conduite, faire de moi-même autre chose qu'un descendant d'Adam, donc un pécheur. De même que par la désobéissance d'un seul, tous les autres ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, tous les autres seront rendus justes. Romains 5, 19. En Adam, nous recevons tout ce qui est d'Adam. En Christ, nous recevons tout ce qui est de Christ. Les expressions « en Adam » et « en Christ » sont insuffisamment comprises et, au risque de me répéter, j'aimerais encore souligner par une illustration la signification héréditaire et raciale du terme « en Christ ». Cette illustration se trouve dans la lettre aux Hébreux. Nous souvenons-nous que dans la première partie de cette lettre, l'auteur cherche à montrer que Melchisédek est plus grand que Lévi. Le point à démontrer, c'est que le sacerdoce de Christ est plus grand que celui d'Aaron, qui était de la tribu de Lévi. Or, pour arriver à cela, il fallait d'abord que l'auteur prouve que le sacerdoce de Melchisédek est plus grand que le sacerdoce de Lévi, pour la simple raison que le sacerdoce de Christ est selon l'ordre de Melchisédek. Nous lisons en Hébreux 7, versets 14 à 17, « Notre Seigneur est issu de la tribu de Juda, et Moïse n'a jamais parlé de sacerdoce pour cette tribu. Cela devient plus évident encore quand on considère ce fait, c'est sur le modèle de Melchisédek qu'un autre prêtre a été établi. Il n'est pas devenu prêtre en vertu d'une règle liée à la filiation naturelle, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car il est déclaré à son sujet, « Tu es prêtre pour toujours ». Selon l'ordre de Melchisédek. Le sacerdoce d'Aaron était naturellement selon l'ordre de Lévi. Et si l'auteur peut nous démontrer que Melchisédek est plus grand que Lévi, il a atteint son but. C'est bien ce qu'il fait, et il le fait d'une façon remarquable. Il nous dit, dans le chapitre 7 des Hébreux, qu'Abraham, au jour où il rentrait de la bataille des rois, en Genèse 14, qu'Abraham donc, offrit la dîme de son butin à Melchisédek et qu'il reçut de celui-ci une bénédiction. Puisqu'Abraham a fait cela, c'est donc que Lévi est plus petit que Melchisédek. Pourquoi? Parce que le fait qu'Abraham offrit la dîme à Melchisédek signifie qu'Isaac, en Abraham, avait part à cette offrande. Et s'il en est ainsi, Jacob, lui aussi, en Abraham, fit son offrande à Melchisédek, ce qui à son tour signifie que Lévi, en Abraham, participa aussi à l'offrande. Il est évident que le plus petit honore le plus grand par son offrande. En Hébreux 7, nous lisons « Or, sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. » Lévi est ainsi dans une position inférieure à celle de Melchisédek. Et c'est pourquoi le sacerdoce d'Aaron est inférieur à celui du Seigneur Jésus. Il n'était pas encore question de Lévi au moment de la bataille des rois, et cependant, il était dans les reins de son père Abraham. Et pour ainsi dire, il offrit lui aussi par Abraham. Et l'on peut dire que ce Lévi, qui prélève la dîme, l'a payé lui-même dans la personne d'Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek vint au devant du patriarche. Hébreux 7, versets 9 et 10. Or, c'est la signification exacte de ces mots « en Christ ». Abraham, qui est la tête de la famille de la foi, comprend en lui-même la famille tout entière. Lorsqu'il offrit la dîme à Melchisédek, la famille tout entière en lui l'offrit à Melchisédek. Ses descendants ne firent pas d'offrande séparée, chacun individuellement, mais ils étaient tous en lui. Et par conséquent, en faisant son offrande, Abraham représentait en lui-même toute sa postérité, toute sa descendance. Or, cela nous ouvre une perspective toute nouvelle. Comme nous l'avons vu, en Adam, tout avait été perdu. Par la désobéissance d'un seul homme, tous, nous avons été rendus pécheurs. Par lui, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et à partir de ce jour, dans toute la race, le péché a régné et conduit à la mort. Mais maintenant, un rayon de lumière apparut sur la scène. Par l'obéissance d'un autre, nous pouvons être rendus justes. De même que par la désobéissance d'un seul homme, tous les autres ont été rendus pécheurs, ainsi, par l'obéissance d'un seul, tous les autres seront rendus justes. Romains 5, 19. Notre désespoir est en Adam, mais notre espérance est en Christ. Le moyen divin de la délivrance. Dieu désire certainement que par ses méditations, nous soyons amenés à la délivrance pratique du péché. Paul montre cela très clairement lorsqu'il commence le chapitre 6 de sa lettre par cette question. Que dirons-nous donc ? Que nous devons demeurer dans le péché ? Son être tout entier se révolte devant une telle suggestion. « Non, certes, s'écrie-t-il, comment un Dieu saint pourrait-il être satisfait d'avoir des enfants impurs et enchaînés dans le péché ?» Aussi, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Romains 6, versets 1 et 2. Dieu a donc certainement pourvu un moyen puissant et efficace pour nous affranchir de la domination du péché. C'est ici qu'est notre problème. Nous sommes nés pécheurs. Comment pouvons-nous sortir de cette hérédité pécheresse ? Puisque nous sommes nés en Adam, comment pouvons-nous sortir d'Adam ? Laissez-moi le dire aussitôt, le sang ne peut pas nous faire sortir d'Adam. Il ne reste qu'un seul moyen. Puisque nous sommes entrés dans la lignée d'Adam par la naissance, nous ne pouvons en sortir que par la mort. Pour mettre fin à notre nature de péché, il faut mettre fin à cette vie reçue d'Adam. L'esclavage du péché est venu par la naissance, la délivrance du péché vient par la mort. Et c'est précisément le moyen de délivrance auquel Dieu a pourvu. La mort est le secret de l'affranchissement. Nous sommes morts au péché, Romains 6, verset 2. Mais comment pouvons-nous mourir ? Plusieurs d'entre nous avons fait peut-être de très gros efforts pour nous débarrasser de cette vie de péché, mais nous l'avons trouvé des plus tenaces. Quelle est la solution ? Nous ne pourrons pas, par nos propres efforts, faire mourir notre vieille nature, mais nous avons à reconnaître que Dieu a résolu notre problème, en Christ. Cela est résumé dans la déclaration suivante de l'apôtre. Nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Romains 6, verset 3. Mais si Dieu a pourvu à notre mort en Jésus-Christ, il faut que nous soyons en lui pour que cela devienne efficace. Et cela semble être un problème tout aussi grand. Comment devons-nous entrer en Christ ? Ici encore, Dieu vient à notre secours. Nous n'avons en fait aucun moyen d'entrer. Mais ce qui est plus important, c'est que nous n'avons pas besoin d'essayer d'entrer, car nous sommes en Christ. Ce que nous ne pouvions pas faire par nos propres forces, Dieu l'a fait pour nous, il nous a mis en Christ. Laissez-moi vous rappeler 1 Corinthiens 1,30. Je crois que c'est l'un des plus précieux versets de tout le Nouveau Testament. Vous êtes dans le Christ. Comment ? Vous êtes par lui, c'est-à-dire par Dieu, dans le Christ Jésus. Loué soit Dieu. Il ne nous a pas laissé le soin d'imaginer un moyen d'entrer en Christ, ni de le mettre en œuvre. Nous n'avons pas besoin de faire un plan pour rentrer. Dieu l'a fait. Et non seulement il l'a fait, mais il l'a aussi accompli. Vous êtes par lui dans le Christ Jésus. Nous sommes en lui. Nous n'avons donc pas besoin d'essayer d'entrer. C'est un acte divin et il est accompli. Maintenant, certaines choses en découlent. Dans l'illustration tirée des Hébreux que nous avons considérée au début de notre méditation, nous avons vu qu'en Abraham, tout Israël, et par conséquent Lévi qui n'était pas encore né, a payé la dîme à Melchisédek. Les descendants d'Abraham n'ont pas offert la dîme séparément et individuellement, mais ils étaient en Abraham lorsqu'il l'offrit, et toute sa postérité prit ainsi part à son offrande. Nous avons là une vraie image de notre position en Christ. Lorsque le Seigneur Jésus était sur la croix, nous tous, nous sommes morts. Non pas individuellement, puisque nous n'étions pas encore nés, mais nous sommes morts en lui, parce que nous étions en lui. Si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. 1 Corinthiens 5, 14. Lorsqu'il a été crucifié, tous nous avons été crucifiés. Prenons un exemple simple pour illustrer ces vérités divines profondes. Je prends un livre et un morceau de papier. Ce dernier a son identité à lui, entièrement indépendante du livre. Comme je ne sais qu'en faire pour le moment, je mets le papier dans le livre. Or, je vais faire quelque chose avec ce livre. Je l'envoie à Paris. Ce n'est pas le papier que j'envoie, mais le papier a été mis dans le livre. Qu'arrivera-t-il au papier ? Le livre peut-il aller à Paris alors que le papier resterait ici ? Le papier peut-il avoir un sort différent de celui du livre ? Non. Là où ira le livre, le papier ira aussi. Si je laisse tomber le livre dans la rivière, le papier y tombera également. Et si je l'en retire promptement, je sauverai aussi le papier. Tout ce qui arrive au livre arrivera aussi au papier, car il est dans le livre. Vous êtes par lui dans le Christ Jésus. Dieu lui-même nous a mis en Christ, et ce qu'il a fait à Christ, il l'a fait à la race tout entière. Notre destinée est liée à la sienne. Ce qu'il a traversé, nous l'avons traversé, car être en Christ, c'est avoir été identifié avec lui et dans sa mort et dans sa résurrection. Il a été crucifié, alors qu'en est-il de nous ? Devons-nous demander à Dieu de nous crucifier ? Jamais. Lorsque Christ a été crucifié, nous avons été crucifiés aussi. Sa crucifixion est passée, la nôtre ne peut donc pas être à venir. Je vous défie de trouver un seul texte dans le Nouveau Testament nous disant que notre crucifixion est à venir. Toutes les références qui sont faites emploient l'aoriste grec, le temps qui signifie une fois pour toutes, le temps de l'éternel passé. Voyons Romains 6, 6. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Galates 2, versets 19 et 20. J'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 5, 24. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et enfin, Galates 6, 14. En ce qui me concerne, je ne veux à aucun prix placer ma fierté ailleurs que dans la mort de notre Seigneur Jésus sur la croix. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi, de même que moi, je l'ai été pour ce monde. De même que personne ne saurait se crucifier soi-même, puisque ce serait une impossibilité physique, de même, au point de vue spirituel, Dieu ne nous demande pas de nous crucifier nous-mêmes. Nous avons été crucifiés quand Christ a été crucifié, car Dieu nous avait mis en lui. Le fait que nous sommes morts en Christ n'est pas simplement une position doctrinale. C'est une réalité éternelle qu'il nous faut saisir par la foi, comme nous l'avons déjà fait pour le sang de Christ et le pardon de nos péchés. ce que représente et renferme sa mort et sa résurrection. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il mourut sur la croix, versa son sang. Il donna ainsi sa vie sainte pour expier notre péché et satisfaire à la justice et la sainteté de Dieu. Cette œuvre était la seule prérogative du Fils de Dieu. Aucun homme ne saurait avoir part en cela. Les Écritures ne nous ont jamais dit que nous avons versé notre sang avec Christ. Dans son œuvre expiatoire devant Dieu, il fut seul. Aucun autre ne pouvait y participer. Mais le Seigneur n'est pas mort seulement pour verser son sang, il est mort comme notre représentant. Dans sa mort, il nous engloba tous. Nous employons souvent les termes « justification » et « identification » pour décrire ces deux aspects de la mort de Christ. La plupart du temps, l'emploi du mot « identification » est juste. Mais l'identification signifie plutôt que la chose vient de nous, que c'est moi qui m'efforce de m'identifier avec le Seigneur. Je reconnais que le terme est vrai, mais il doit être employé plus tard. Il vaut mieux commencer par le fait que c'est le Seigneur qui m'a englobé dans sa mort. C'est la mort du Seigneur qui me met en position de m'identifier. Ce n'est pas moi qui m'identifie pour y entrer. Ce qui importe, c'est que Dieu m'a mis en Christ. C'est quelque chose que Dieu a accompli. C'est pour cette raison que ces deux mots du Nouveau Testament, en Christ, sont toujours si précieux. Si nous sommes tous englobés dans la mort du Seigneur Jésus, nous sommes aussi tous englobés dans sa résurrection. Nous sommes arrêtés au premier chapitre de la première épître aux Corinthiens pour établir le fait que nous sommes en Jésus-Christ. Nous irons maintenant à la fin de cette même lettre pour voir plus profondément ce que cela signifie. Dans 1 Corinthiens 15, versets 45 et 47, deux noms ou titres remarquables sont employés pour désigner le Seigneur Jésus. Il y est appelé le dernier Adam et également le second homme. Les Écritures ne parlent pas de lui comme du second Adam, mais comme du dernier Adam. Elles ne parlent pas non plus de lui comme du dernier homme, mais comme du second homme. Il faut souligner cette distinction car elle renferme une vérité de grande valeur. En tant que dernier Adam, Christ est la somme totale de l'humanité. En tant que second homme, il est la tête d'une nouvelle race. Nous trouvons donc ici une double union. L'une est liée à sa mort et l'autre à sa résurrection. En premier lieu, son union avec la race en tant que dernier Adam a commencé historiquement à Bethléem pour se terminer à la croix et au tombeau. Par elle, il a rassemblé en lui-même tout ce qui était en Adam pour l'apporter au jugement et à la mort. En second lieu, notre union avec lui en tant que second homme commence à la résurrection pour se terminer dans l'éternité, ce qui signifie pour ne jamais se terminer. En effet, ayant dans sa mort mis de côté le premier homme en qui le dessein de Dieu avait été frustré, il est ressuscité comme la tête, le chef d'une nouvelle race d'hommes en qui son dessein sera pleinement réalisé. Ainsi, lorsque le Seigneur Jésus fut crucifié sur la croix, il fut crucifié comme le dernier Adam. Tout ce qui était dans le premier Adam fut rassemblé et mis de côté en lui. Nous y étions tous compris. En tant que dernier Adam, il a effacé la vieille race. En tant que second homme, il a introduit la race nouvelle. C'est dans sa résurrection qu'il se présente comme le second homme. Nous y sommes tous compris. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la puissance glorieuse du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains 6, versets 4 et 5. Là, je vais faire une petite parenthèse et souligner quelque chose qui est important dans ces deux versets. Comme Christ et ressuscité des morts par la puissance glorieuse du Père. De même, nous aussi, par la puissance glorieuse du Père, nous marchions en nouveauté de vie. Nous sommes morts en lui, le dernier Adam. Nous vivons en lui, le second homme. La croix est ainsi la puissance de Dieu qui nous fait passer d'Adam en Christ. Je vous propose de revoir rapidement les points principaux que nous avons abordés ensemble. L'esclavage du péché est venu par la naissance, la délivrance du péché vient par la mort, et c'est précisément le moyen de délivrance auquel Dieu a pourvu. Vous êtes en lui, dans le Christ Jésus. Vous êtes par lui, pardon, dans le Christ Jésus. 1 Corinthiens 1:30. Dieu lui-même nous a mis en Christ. Et ce qu'il a fait à Christ, il l'a fait à la race entière. Si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. 1 Corinthiens 5:14. Lorsqu'il a été crucifié, tous nous avons été crucifiés. En tant que dernier Adam, Christ est la somme totale de l'humanité. En tant que second homme, il est la tête d'une nouvelle race. Nous sommes morts en lui, le dernier Adam, nous vivons en lui, le second homme. La croix est ainsi la puissance de Dieu qui nous fait passer d'Adam en Christ.